Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Emmanuel Macron était à l'académie militaire de Sandhurst au sud de Londres aujourd'hui pour le sommet franco-britannique. Au menu des discussions avec Theresa May, la question des migrants qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne et celle de la frontière britannique qui est en vertu des accords entre les deux pays se trouve à Calais, en territoire français et donc gérée par les autorités françaises avec l'aide financière britannique. C'est loin d'être un exemple unique face à l'afflux de migrants. Beaucoup de frontières européennes sont externalisées dans d'autres pays. Est-il nécessaire et efficace d'externaliser les frontières pour gérer les migrations? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous rejoignent aujourd'hui avec nous en studio. Eva Ottavi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des solidarités internationales à la CIMAD, qui est une association française de soutien aux migrants, déplacés, réfugiés, demandeurs d'asile et personnes en situation irrégulière. Et par téléphone en direct d'Italie, Cécile Kienge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne social-démocrate, ancienne ministre italienne de l'intégration. Avant toute chose, je vais vous demander à toutes les deux une réaction. La France et le Royaume-Uni annoncent ce soir un nouveau traité sur les migrations. La frontière est maintenue à Calais. Les Britanniques verseront une contribution supplémentaire de 50 millions d'euros et le traitement des mineurs isolés va être amélioré. Qu'en pensez-vous, Eva Ottavi?
Sur le traitement des mineurs isolés, je dirais qu'il était temps que l'Angleterre et la France puissent avancer dans leurs discussions et que la situation se débloque, puisqu'effectivement il y a des mineurs isolés en France et notamment à Calais qui souhaitent et qui ont de la famille de l'autre côté de la frontière. Et depuis quelques années, la France et l'Angleterre tentent de travailler sur cette question-là, mais avec énormément de difficultés, notamment du côté anglais. En ce qui concerne l'argent qui va être déployé sur la frontière,
50 millions d'euros de plus chaque année.
Tout à fait. Côté de mon association, de la CIMAD, on est un petit peu plus circonspect puisque cet argent sera uniquement, apparemment, hein, d'après déclaration qu'on a vue, utilisé à la sécurisation de la frontière. En sécurisant la frontière, et on le verra aussi sur d'autres frontières, en externalisant de cette façon, uniquement sous des visées sécuritaires, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les routes vont juste être encore plus dangereuses, et donc on risque d'avoir un petit peu plus de morts encore, comme c'est le cas depuis quelques années, entre la France et l'Angleterre.
Cécile Kienge, la question des mineurs isolés et du regroupement familial, c'est déjà un début, un premier pas, ou c'est la plus importante pour vous?
Mais oui, moi je crois que c'est une bonne chose puisque j'ai été à Calais il y a quelques mois et la situation a été catastrophique. Et je crois que premièrement, il y a le gouvernement aussi français qui va y mettre de l'argent, ce qui était dans le temps Calais était un peu abandonné. Donc en ce moment-ci, tous ceux qui peuvent emmener le bien-être, c'est-à-dire l'accueil et surtout une meilleure répartition des migrants sur tout le territoire dans des bonnes conditions, avec un accueil là où les gens sont respectés dans leurs droits, moi je crois que c'est déjà une très bonne chose. Pour ce qui concerne la frontière, et en ce moment-ci, il faut sûrement commencer à faire comprendre aux États membres qu'on ne peut pas être là en train de déléguer l'accueil à d'autres pays, puisque d'autant plus que l'Europe, c'est une terre d'accueil, l'Europe, c'est une terre là où il ne manque rien, et c'est-à-dire on a toutes les possibilités pour pouvoir accueillir très bien les personnes, on ne peut pas de toute façon externaliser l'accueil. En ce moment-ci, les propositions de pouvoir améliorer la vie des migrants dans ces camps et doit être accueilli, mais il faut aller petit à petit vers la fermeture de ces camps pour que l'intégration puisse être totalement à l'intérieur de la population, c'est-à-dire directement en contact avec des autres pays, pas d'une façon isolée.
Alors, d'abord, on va faire un petit point sur l'ampleur de ce phénomène d'externalisation des frontières. On parle évidemment beaucoup de la frontière franco-britannique, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui ne se limite pas à ça, Eva Ottavi.
Non, tout à fait. Déjà, peut-être rappeler ce qu'est l'externalisation, rapidement. Hein. C'est donc l'externalisation à la base des contrôles aux frontières. C'est c'est-à-dire comment l'Union européenne et ses États membres, notamment la France, peuvent, à travers de l'argent qui est donné à d'autres États non européens, normalement, type Libye, type Niger, Soudan, Afghanistan, Turquie, par exemple, demander à ces États de gérer à la fois l'accueil des personnes, effectivement, sur leur territoire, c'est-à-dire empêcher les personnes en migration de venir, d'arriver aux frontières, et donc d'endiguer les populations en amont des frontières européennes. Ça, c'est le premier volet de l'externalisation. Le deuxième volet de l'externalisation, c'est continuer de coopérer avec ces mêmes États pour qu'ils acceptent de récupérer les ressortissants de leur propre pays qui seraient arrivés de façon irrégulière sur le territoire européen, donc en acceptant les expulsions.
Cécile Kyenge, votre pays, l'Italie, pratique cette externalisation des frontières, d'ailleurs, notamment en Libye, et il y a une mission qui vient d'être votée pour l'envoyer au Niger. C'est un phénomène qui est en expansion pour vous ?
La mission qui a été envoyée au Niger, c'est une mission qui part premièrement de la France. Hein. Donc, il faut bien préciser, puisque en ce moment-ci, on a le G5 dans le Sahel avec les 5 pays. Mmh. Et après le sommet d'Abidjan, tous les pays, c'est-à-dire de l'Union africaine et de l'Union européenne, se sont mis d'accord pour commencer pour former une task force et lutter contre le trafic des êtres humains et contre l'esclavage, mais c'est surtout contre le terrorisme, le trafic des êtres humains partout dans le Sahel. Donc c'est pas l'Italie comme telle seule qui se lance dans cette opération,
c'est l'ensemble de l'Union européenne.
Exactement. Donc il faut bien préciser dans tout ça, puisque ça rentre dans un cadre où les pays sont partis soutenir les 5 États membres du G5 Sahel, et je rappelle ici, il y a la Mauritanie, le Niger justement, il y a
le Mali, le Burkina Faso
et le Tchad. Donc il y a ces pays auxquels l'opération est fortement soutenue par la France, et maintenant il y a aussi l'Italie qui soutient tout ça. Bon, je peux dire que il faut bien distinguer, puisque là nous sommes en train de parler de l'Europe, et il faut être assez précis, puisque le Parlement européen, bon, moi je suis députée européenne et surtout de notre famille social-démocrate, on a beaucoup poussé pour une gestion et une approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche holistique? Et c'est-à-dire que chaque politique qu'on a mis en marche, premièrement, ça doit être une politique qui ne doit pas être seulement basée sur les urgences. Donc, renforcer l'action européenne contre le trafic et l'exploitation des migrants, ça entre dans cette stratégie. Sauvegarder aussi, établir des visas humanitaires, des programmes d'admission et des couloirs, des corridors humanitaires. Respecter les accords de relocalisation mais aussi une répartition des demandeurs d'asile entre tous les États membres, ça entre déjà dans la politique interne de l'Europe. Pour ce qui concerne la partie de la politique extérieure, c'est très important de pouvoir insister sur le fait que du Parlement européen, on demande d'ouvrir des canaux d'immigration légale, y compris pour tous les migrants qui actuellement viennent appeler économiques, puisque moi je crois que quand ils arrivent en Europe, ça ne sert à rien de commencer à distinguer. Il faut renforcer les canaux d'immigration légale, il faut investir sur plus de mobilité, mais tout ça dans le respect des êtres humains. Justement, oui. je suis aussi contre l'externalisation des frontières, puisque l'Union européenne est capable de pouvoir accueillir des gens sur le territoire, et on doit bien insister sur ce point-là.
Le but recherché par les pays qui délocalisent et quelque part délèguent la gestion de leurs frontières, Eva Ottavi, c'est quoi? Si on se parle franchement, c'est de ne pas voir les migrants arriver en Europe, c'est ça le but?
Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un double objectif: d'endiguer les populations en amont des frontières européennes, donc fixer les populations là où elles sont, que ce soit dans les pays d'origine ou les pays de transit. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième volet, ce sont les expulsions depuis le territoire européen. Et là, une fois de plus, on a aussi besoin de coopérer avec des États non membres de l'Union européenne. Ce qu'il y a derrière l'externalisation et le travail que mettent en œuvre les politiques mises en œuvre par les États membres de l'Union européenne et par l'Union européenne sur les sur les politiques externalisées, c'est avant tout l'intérêt en fait de l'Union européenne et de ses États, et non pas nécessairement l'intérêt des États avec lesquels on coopère. On va par exemple choisir de mettre en œuvre des projets dans telle ville ou dans telle région, non pas parce qu'elle a un besoin nécessaire, par exemple en développement, mais parce que c'est un, par exemple, c'est une ville de transit, comme la ville d'Agadez au Niger. Mmh. C'est pour ça qu'Agadez est une des villes dans qui reçoit le plus de fonds dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence, notamment, qui est un fonds lié aux politiques migratoires.
Parce qu'elle est située sur une des principales routes des migrants.
Tout à fait.
Est-ce que, au regard de ses objectifs, Cécile Kyenge, est-ce que cette politique d'externalisation des frontières, elle est efficace, ou est-ce que finalement, ça change pas grand-chose? Les migrants passent quand même par d'autres endroits?
Vous savez, les migrants passent quand même par d'autres endroits. Mais il y a une chose que je peux dire, peut-être une partie sur laquelle je suis d'accord avec madame, c'est le fait que si l'Union européenne a des difficultés, et là je sais pas, entre le Parlement et les États membres, si les États membres ont beaucoup de difficultés à pouvoir avoir une politique commune, c'est justement parce qu'il y a trop d'égoïsme. Donc la souveraineté, personne ne veut céder un peu de sa souveraineté. Donc chaque pays, chaque État membre ne veut pas au fait partager les responsabilités sur certaines politiques comme les politiques migratoires. Qu'est-ce qui se passe? Le Parlement demande et c'est sous pression du Parlement que nous sommes en train de demander qu'on puisse revoir tout le système d'asile, et nous sommes en train de le revoir. Le problème, c'est pas la Commission, c'est pas le Parlement, mais ce sont les États membres, puisque s'ils n'arrivent pas parler d'une même voix, qu'est-ce qui se passe? Alors on arrive au niveau où chaque pays commence à réagir de son côté. Bien sûr, c'est pas efficace, puisque l'Union européenne doit parler d'une même voix, et le jour où l'Union européenne va en quelque sorte dépasser cette crise que moi j'appelle crise de solidarité, alors là on pourra parler d'un vrai partenariat win-win avec les États membres, d'un vrai partenariat là où on doit investir, pas pour des intérêts peut-être de certains pays, des intérêts de certaines sociétés, mais c'est pour le bien-être de chaque personne. Donc la politique sur laquelle on doit investir, c'est sur le capital humain. Commencer à parler du développement directement et à partir des pays d'origine, sans trop aller vers les intérêts des uns ou des autres, mais pour la personne et le bien-être de chaque personne.
D'accord. Eva Ottavi, cette politique d'externalisation des frontières, elle est marquée, comme le disait Cécile Kyenge, par un manque de solidarité et puis même de l'égoïsme, quoi, en fait, c'est l'idée.
De l'égoïsme, oui, en tout cas de la part du côté des États membres de l'Union européenne, qui effectivement ne voient que leur propre intérêt dans le cadre de la collaboration qu'ils ont avec des États non européens. Donc il y a effectivement une forme d'égoïsme, mais aussi une forme de un peu d'irréalisme aussi, c'est-à-dire que souvent on dit que c'est la société civile ou les associations qui ne sont pas pragmatiques, mais vu le nombre de morts aux frontières depuis plus de 20 ans, vu le nombre de violations des droits des personnes aux frontières documentées depuis près de 20 ans par l'ensemble de la société civile et les Nations Unies de chaque côté des frontières européennes, il nous semble que le plus pragmatique, ce sont effectivement des ouvertures de voies légales pour les personnes.
Oui, parce que tout ça, ça force à l'ouverture de nouvelles routes alternatives en dehors de ces circuits qui sont mis en place et qui sont plus dangereuses pour les migrants.
Elles sont non seulement effectivement plus dangereuses, mais en plus, en renforçant, en sécurisant un petit peu plus les frontières, en tentant de les rendre plus imperméables, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est plus difficile de les passer. Et comme il est plus difficile de les passer, les personnes vont avoir besoin d'intermédiaires, parfois peu scrupuleux, qu'on peut nommer effectivement les passeurs. Et donc, en sécurisant en plus les frontières, l'Union européenne et les États membres, dont la France, multiplient également sur l'ensemble de la route les passeurs.
Cécile Kyenge, on a été beaucoup choqués en fin d'année dernière par les images de vente d'esclaves en Libye que la chaîne de télévision CNN avait réussi à se procurer. Est-ce que c'est une conséquence directe de la difficulté pour les migrants à passer les frontières?
Oui, et beaucoup, puisque les gens sont bloqués en Libye, et c'est pourquoi au premier point je mets le fait de pouvoir renforcer surtout les voies légales, c'est-à-dire les voies légales et des canaux d'immigration légale pour permettre aux migrants, en quelque sorte, de d'avoir des documents. Le fait de pouvoir investir aussi sur établir des visas humanitaires, des programmes d'admission, des corridors humanitaires, tout ça, ça nous permet de ne pas jeter dans les bras et des trafiquants, dans les bras des criminels, des personnes qui veulent se déplacer, puisque au fait, qu'est-ce que cherche le migrant? C'est chercher une place là où il veut bien vivre. Il est en train de chercher une place là où, économiquement, là où il peut trouver la paix, là où il peut être, il fuit aux discriminations. Et donc, je crois que tous ceux qu'on met comme mur, que ça soit un mur physique, c'est-à-dire que ça soit un mur du point de vue des politiques, ça crée des obstacles et ça emmène directement les migrants dans les mains des criminels. Donc il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Il faut aller dans le fait de pouvoir investir dans la mobilité, investir dans l'accès aux ressources, même sur le territoire, dans une stratégie de coopération avec les pays tiers, mais surtout en partant aussi des valeurs universelles, puisque moi je crois que les libertés fondamentales, je crois que les droits humains, ça doit être respecté dans tous les pays, en essayant de collaborer avec des pays qui et aussi accompagner les pays dans ces processus, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pays, je peux parler de l'Afrique comme je peux parler aussi d'autres pays dans le monde. On a beaucoup de pays dans lesquels on voit des violations des droits de l'homme, on voit des actes comme le terrorisme, mais l'Union européenne doit être très forte. C'est pourquoi je dis au début, quand on parlait de la mission de l'Italie au Niger, c'est contre le trafic des êtres humains, c'est contre le terrorisme. Et d'ailleurs, on n'y trouve pas seulement l'Italie et la France, on y trouve aussi les États-Unis, on y trouve aussi l'Allemagne, mais ce n'est pas une excuse.
Ce ne sont pas les mêmes objectifs.
On doit avoir une approche holistique. Alors, il ne faut pas prendre une étape à la fois, mais on doit avoir une approche holistique.
Globale.
Mettre tout ça, oui, global.
Oui, parce que le
pour avoir des propositions de court et moyen et long terme.
Parce que le phénomène des migrations, on le sait, il n'est pas transitoire. Cela va durer pour des raisons multiples, climatiques, économiques, politiques, comme vous le disiez. Il faut une politique structurelle d'accueil, redistribuer les budgets de la sécurité plutôt vers l'accueil. Eva Ottavi?
En tout cas, vers plus de mobilité et plus de possibilités de passer, d'aller et venir à travers ces frontières. Parce que le souci aujourd'hui, c'est quand même, concrètement, les personnes, elles se retrouvent en Libye ou dans d'autres pays, type la Turquie, à essayer de passer des frontières, parce que la politique de visa des États membres de l'Union européenne, et notamment de la France, est extrêmement restrictive. Il n'est pas si simple que ça d'obtenir un visa. Et donc, il y a des personnes qui se retrouvent sur la route après une, deux, trois, quatre demandes de visa pour un des pays membres de l'Union européenne, pas uniquement pour la France, sans la possibilité de pouvoir soit fuir son pays pour une personne en recherche de protection, soit parce qu'elle est à la recherche effectivement d'une vie meilleure, d'un travail. Et donc, avec une politique de visa restrictive, effectivement, les gens vont mettre à la fois plus de temps pour venir, dépenser plus d'argent, prendre des routes de plus en plus dangereuses et parfois malheureusement mortelles. Et donc à la fin, ils vont mettre parfois entre 2, 3 ans, voire 5 ans pour certains à arriver sur le territoire de l'Union européenne. Ils n'auront pas nécessairement l'envie de partir, puisque déjà il faudra rembourser le voyage. Et ils savent que s'ils repartent, ils ne pourront pas revenir.
Donc, peut-être il faut ajouter une autre chose là.
Il vous reste quelques secondes, allez-y.
Oui, et je crois qu'il faut préciser aussi pour les gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne et du Parlement surtout, nous sommes en train de revoir le règlement de Dublin. C'est pour plus de mobilité, c'est pour permettre aux gens qui arrivent sur le territoire européen, au fait, de ne pas s'arrêter dans les pays frontaliers, mais de pouvoir être libres et, sur le territoire européen. Le Parlement a fait une proposition qui est une proposition très courageuse. Et maintenant, nous sommes en train de travailler pour pousser les États membres à pouvoir adopter cette proposition, et ça permettra justement une partage équitable des responsabilités. Moi, je pense
merci.
Que c'est très important de pouvoir dire ça.
Merci à vous, Cécile Kiengé, merci à vous, Eva Otavi, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Thomas Trochot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur le site internet de RFI 3, www.rfi.fr. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.